à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, mais aussi Clément Salazar, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Il y a tout juste 50 ans, s'éteignait un inventeur de génie, souvent considéré comme le père fondateur du dessin animé et emblème controversé du divertissement mondialisé. Walt Disney, le créateur de Mickey et de Fantasia, a disparu le 15 décembre 1966. À l'âge de 65 ans, 30 ans plus tôt, en 1937, le public américain découvrait le premier long métrage animé, Blanche-Neige et les Sept Nains, un immense succès en salle pour un bénéfice total à l'époque de 8 millions de dollars. Aujourd'hui, l'industrie Disney flirte plutôt avec les 53 milliards de dollars de chiffre d'affaires et touche chaque année 200 millions de personnes dans le monde. De Pixar au studio Ghibli, une enfance animée, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Seul l'aîné de chaque famille pourra participer à ce tournoi et espérer obtenir la main de la damoiselle.
Je veux tenter ma chance et décider de mon destin.
Qu'est devenue ma fille adorée? Je ne la reconnais plus.
Tout est gelé.
Je vous en prie, n'approchez pas. Elsa! Je la retrouverai et tout s'arrangera.
Vous n'avez pas peur?
Elle ne me fera pas de mal. C'est ma sœur.
Ya! Les loups! Laissez-moi faire!
Je vais vous aider!
Je me demande si nous pourrons survivre à ce blizzard!
Ce n'est pas le blizzard! C'est ma sœur! Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer, je viens pour...
Oh, bien sûr, bien sûr! Oui. Maui a toujours le temps pour ses fans. Hein. Je sais, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer son idole.
Tu n'es pas mon idole! Et je ne suis pas venue parce que je voulais un autographe. Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer.
Extrait de Rebelle, sorti en 2012, 122e long métrage d'animation des studios Disney. La Reine des Neiges, sorti en 2013, 128e du nom. Ou encore Vaiana, la légende du bout du monde, 137e et dernier long métrage de la principale firme américaine de production de dessins animés. Les studios Disney, devenus Walt Disney Pictures en 1983, un empire colossal qui a très largement influencé nos représentations de l'enfance depuis près d'un siècle et l'invention de la série Mickey Mouse à la fin des années 1920. Disney, qui a acheté Pixar, l'autre géant américain de l'animation en 2006, a beaucoup évolué. Et avec La Reine des Neiges ou encore Vaiana, dont on entendait les extraits, qui vient de sortir en salle, la Walt Disney Company, longtemps jugée conservatrice, crée enfin des personnages de femmes indépendantes qui rêvent d'aventures et non plus forcément de princes charmants. Mais on est encore loin de l'enfance libre représentée par les grands maîtres des studios Ghibli, Isao Takahata et Hayao Miyazaki au Japon. Pendant ce temps, l'industrie française du film animé ne s'est jamais si bien portée. Dernier exemple en date, Ma vie de courgette, nommée avant-hier aux Golden Globes. On entendra d'ailleurs son réalisateur Claude Barras dans cette émission. Alors comment l'enfance s'incarne-t-elle dans les dessins animés? Quelle différence entre les régions, les cultures du monde? Comment ces représentations évoluent-elles au cours du temps? Et que révèlent-elles ces mutations sociales et sociétales qui sont à l'œuvre? Pour évoquer toutes ces questions, on aura dans quelques instants Xavier Kawa-Topor, qui est historien du film d'animation, qui vient de sortir cet ouvrage, Le cinéma d'animation en 100 films. Il va nous retrouver dans quelques instants, il est en duplex depuis La Rochelle. Mais puisqu'il n'est pas encore là, nous allons commencer par évoquer l'autre grand géant Pixar, mais qui en réalité fait désormais partie de Disney, Pixar Animation Studio, une société américaine créée en 1986, mais le succès est venu à partir des longs métrages coproduits avec Disney. Le studio a réalisé 16 longs métrages, Toy Story en 95, Mille et une pattes en 98, Monstres et compagnie en 2001, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Cars, Ratatouille, mais aussi Wall-E en 2008, souvenez-vous.
Voici Wall-E. Après toutes ces longues années, il a développé un petit défaut technique. Une forte personnalité. Il est extrêmement curieux. Et un petit peu trop seul. Mais tout cela est sur le point de changer.
Wall-E au Au début du 22e siècle, le monde est devenu un immense dépotoir dans lequel la vie n'a plus sa place, en tout cas presque plus. Seul ce petit robot chargé de ramener aux humains partis s'exiler dans l'espace une preuve de vie sur Terre. Wall-E, c'est le dernier film créé par Pixar dans sa version indépendante, pas encore sous l'égide de Disney. En 2006, rappelons-nous, 20 ans après sa création, à l'origine de laquelle se trouvait d'ailleurs Steve Jobs, feu le patron d'Apple. Et après avoir établi plusieurs partenariats privilégiés, Pixar est donc directement racheté par Disney, dont il devient une filiale.
Stratégiquement, nous sommes très prudents et nous assurons que l'acquisition soit pertinente dans notre ligne éditoriale et au-delà, dans notre stratégie. Nous n'achetons pas par opportunité, simplement parce que ça ne coûte pas cher ou c'est sous-évalué. Notre stratégie est celle d'une marque de divertissement de grande qualité pour un public mondial. L'acquisition qui a été cruciale pour nous a été Pixar. Nous avions de grandes difficultés dans notre principal outil créatif et ils étaient définitivement les leaders dans l'animation et le dessin. Et nous les avons amenés à nous rejoindre pour créer une franchise sous le nom de Walt Disney Company. Et maintenant, nous pouvons monétiser sur l'ensemble de cette plateforme d'entreprise.
Voilà, on entendait à l'instant Kevin Mayer, le responsable de la stratégie chez Disney. Bonjour Hervé Aubron.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef du magazine littéraire, auteur notamment de cet ouvrage « Génie de Pixar ». On dit souvent que Disney a racheté Pixar. Mais si on regarde les choses un peu de près, c'est finalement plutôt Pixar qui s'est emparé de Disney. En tout cas, quand on regarde comment les principaux postes de direction ont été répartis, on voit que les principaux cadres de Pixar ont fait main basse sur l'essentiel en réalité, Hervé Aubron.
Oui, c'est ça. C'est en quelque sorte, à l'époque, enfin en 2006, Disney a été presque dans l'obligation de racheter Pixar. C'est assez rare dans l'histoire du cinéma finalement. C'est-à-dire que effectivement, c'est Disney qui absorbe les studios Pixar, mais via un jeu d'échange d'actions, etc. À tel point qu'à l'époque, Steve Jobs devient le premier actionnaire individuel de Disney. Mais surtout, effectivement, ce qu'on voit, c'est que deux piliers de Pixar, Ed Catmull, qui est toujours président de Disney aujourd'hui, et John Lasseter, qui est directeur artistique de Disney et Pixar, prennent vraiment les commandes des deux entités. Donc ça veut dire qu'au niveau quand même des projets et au niveau de la direction artistique, Pixar prend les manettes.
Et est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup? Parce que ce que Disney a racheté finalement, c'est le potentiel d'innovation absolument extraordinaire de Pixar. C'est son génie, pour reprendre le titre de votre livre, Génie de Pixar. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en fusionnant précisément avec Disney, Pixar perde un petit peu de ses capacité d'innovation?
Oui, bah c'est ce qu'on a craint et ce qu'on a pu observer. C'est vrai que ça patine un peu là en ce moment, les films Pixar. Ceci dit, en 2015, il y a eu ce très grand film qui s'appelle Vice Versa, qui montrait quand même encore de vrais élan, je dirais, dans les productions Pixar. Mais c'est vrai que là, ça patine un peu. Ils ont tendance à faire un peu des suites, des 2, 3, 4, etc. Bon, ceci dit, il y a eu depuis Toy Story en 95 jusqu'à, il y a eu une vingtaine d'années d'intense créativité. Il n'est pas illogique qu'il y ait un petit plat et que ça puisse redémarrer ensuite.
Hein. Vice Versa, bah justement, film sorti en 2015, produit donc par les studios Disney, il a très bien fonctionné. Vous l'avez dit, d'ailleurs, il a reçu l'Oscar.
Le label Pixar, parce qu'une des intelligences quand même de la Terre, ouais, c'est qu'il a bien distingué les deux labels. C'est lui aussi qui a la main sur les productions Disney. Et clairement, il a, on voit bien que c'est pas la même politique quand même dans les deux.
Ouais. Alors, on va peut-être écouter un petit extrait. La jeune Riley, qui doit quitter sa ville natale du Minnesota pour s'installer à San Francisco parce que son père change de travail, elle va s'efforcer de s'habituer à cette nouvelle vie guidée par ses émotions que sont la joie, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse. Allez, petit extrait.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un ?
Riley, je n'aime pas du tout ce genre d'attitude.
Ah, t'aimes pas ça ? Tu vas te
servir !
Non,
non, non, non, respire !
C'est quoi ton problème ? Laisse-moi tranquille !
Niveau d'insolence critique ! Chef !
Déclenchez le plan Vigifurax 2 !
Vigifurax 2 !
Attention, Riley, si tu continues à répondre sur ce ton-là, je vais me fâcher.
T'en redemandes, papa ?
Quoi ? Moi ? Mais...
Armez le poing !
Double clé en position ! Paré à taper du poing sur la table !
La ferme !
Oh ! Ça suffit ! Monte dans ta chambre !
C'est où qu'on commande ? C'est ici qu'on commande !
Ouais ! Bien joué ! Bravo, messieurs ! On est passé à deux doigts de la catastrophe.
Voilà, petit extrait de Vice Versa. C'est un film qui est... C'est vrai qu'il y a eu un grand succès, vous l'avez dit, Hervé Aubron. L'une des choses qui est assez bien rendue, c'est la manière dont les émotions se complexifient à mesure que cette petite fille grandit pour rentrer dans une sorte de maelstrom d'affect extrêmement difficile à contrôler, à maîtriser pour cette préadolescente. C'est intéressant d'ailleurs d'avoir consacré un film entier à ce moment de l'enfance si particulier. On parle, nous, de la représentation l'animation, de l'enfance des dessins animés. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir fait d'avoir insisté sur ce moment de l'enfance, sur la préadolescence finalement.
Oui. Il faut noter quand même dans Vice-Versa, une fois de plus, Pixar, l'une des grandes forces quand même de Pixar, et ce pourquoi il a finalement détrôné en quelque sorte en termes d'aura au moment où Disney a été obligé de le racheter, sa grande force, c'est d'avoir inventé des personnages quand même qui sortaient simplement du champ des animaux qui parlent, quoi. Et dans Vice-Versa, là encore, bon, quand même globalement, vous regardez la filmographie, je dirais, de Pixar, on a assez peu d'humains finalement. Alors c'est vrai que Vice-Versa, mais c'est quand même un film particulier avec une figure humaine. Mais sinon, vous avez beaucoup de figures qui ne sont ni des animaux, ni des... Enfin, voilà, vous avez des robots, des voitures, des... Bon. Et là, il pousse effectivement le bouchon plus loin avec, ces histoires d'affects ou d'émotions qui deviennent des personnages, ce qui est quand même, bon, une idée assez abyssale. Et effectivement, un des films les plus frontaux sur l'enfance, mais bizarrement, c'est pour présenter le cerveau d'un enfant comme une sorte d'ordinateur qui bug. C'est ça aussi qui est assez étonnant chez Pixar.
Est-ce que c'est seulement... Vous parlez là de nouveaux types de personnages. On pourrait se poser la question de savoir ce que la fusion entre Disney et Pixar a changé dans la manière de produire des dessins animés et surtout de raconter des histoires. Par quoi justement ça passe ? C'est seulement de nouveaux personnages ou il y a aussi autre chose ?
La fusion entre Disney et Pixar a pas radicalement changé les choses du côté des productions label Pixar, puisque encore une fois, hélas, ils font quand même beaucoup de suites des productions antérieures, quoi, de Pixar. Je crois que dès le début, Pixar a radicalement changé quand même la donne, c'est-à-dire qu'ils ont complètement renouvelé, pour utiliser un mot qui est toujours laid, mais on n'en a pas de meilleur, l'anthropomorphisme, quoi. C'est-à-dire que Disney avait complètement disqualifié en quelque sorte depuis longtemps, même si au début Disney a été d'une liberté folle, mais c'est vrai que c'est devenu une espèce d'opération, on va dire, assez enfantine, un peu autoritaire, voire coloniale. En gros, on domestique des animaux et on les fait parler. Et Pixar arrive et renouvelle complètement la donne là-dessus, avec Toy Story notamment, quand même, ce coup de génie d'utiliser, de dire bon, on va pas faire parler les animaux, on va faire quelque chose vraiment avec des jouets.
Ouais. Voilà. Vous dites, là, on quitte un peu le dessin animé, mais vous dites que le film de Pixar qui se rattache le plus finalement au génie, à l'esprit Pixar, disons-le, c'est AI, intelligence artificielle. Pour quelle raison ?
Assez logiquement, oui, je le mettais en rapport notamment avec Wall-E, dont vous avez passé un extrait là tout à l'heure. C'est que là où Pixar est évidemment impressionnant, c'est que dès le début, il fait la fable de ses propres productions. C'est assez fréquent d'ailleurs dans l'animation, mais notamment toute la question, de l'humain, du non-humain et de l'informatique, du numérique, etc. Wall-E, exemplairement, c'est quand même cette idée incroyable qu'il n'y a plus qu'un robot dans l'espace pour encore avoir l'usage des émotions humaines, alors que les hommes sont devenus complètement anesthésiés, quoi. AI, c'était déjà ce film donc produit en 2001 de Spielberg. Drôle de film, parce que c'est un film c'est un passage de relais entre Kubrick et Spielberg. Bizarrement, qui se réalise finalement en 2001, parce qu'à la base c'est un projet de Kubrick que finalement Spielberg concrétise. Il y a cette idée d'un enfant robot, ou d'un robot enfant, et que donc l'enfance peut être complètement, marchandisée, mais aussi programmée, quoi. Voilà. Et c'est en ça que, par exemple, Vice-Versa, il y a évidemment quelque chose à voir avec AI, cette espèce de... Je dirais plutôt que AI, le film aurait dû s'appeler affect artificiel ou émotion artificielle, parce que c'est ça le plus abyssal. Et dans Vice-Versa, c'est très exactement ça quand même. C'est-à-dire l'idée que, encore une fois, le cerveau de cette petite fille s'apparente quand même, ressemble pas mal à un ordinateur, mais un ordinateur moins, parfait ou infaillible que celui sur lequel le film lui-même est réalisé. Quoi.
Ouais, enfance artificielle, affect artificiel ou encore Pinocchio 2.0 d'une certaine manière.
Bien sûr, oui, c'est Pinocchio aussi, bien sûr.
Ouais. Merci beaucoup Hervé Aubron d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai votre ouvrage Génie de Pixar qui était paru aux éditions Capricci. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On va pouvoir retrouver Xavier Kawatopor qui est avec nous en duplex depuis La Rochelle. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes historien du film d'animation. Vous avez par ailleurs fondé la résidence internationale d'écriture de l'abbaye de Fontevraud et vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le cinéma d'animation en 100 films. On a tout à l'heure diffusé un petit extrait de Vaiana, qui est donc le dernier né des studios Disney Pixar, de Vaiana, la légende du bout du monde. Le film s'inspire de l'univers mythologique de la Polynésie. C'est l'histoire d'une jeune fille, donc Vaiana en l'occurrence, qui part à la recherche d'une une île légendaire aux côtés du demi-dieu Maui. À travers ce personnage, on est quand même très loin de Blanche-Neige qui avait lancé la série. D'ailleurs, contrairement à son aîné, Vaiana revendique régulièrement qu'elle n'est pas, elle, précisément une princesse. Elle le dit plusieurs fois dans le film. D'ailleurs, elle n'attend pas son prince charmant, mais elle part à la conquête d'une île légendaire. Que vous inspire ce dernier personnage d'héroïne de Disney? Est-ce qu'il vous semble en rupture par rapport au précédent? Et puis ensuite, on s'intéressera peut-être à la question de savoir si Disney Pixar est toujours cette fabrique du cliché ou si on essaye, du côté de ce cinéma d'animation, de nuancer un peu les choses. Xavier Kawatopor, d'abord sur Vaiana.
Écoutez, moi j'ai toujours du mal à considérer des ruptures fortes dans la trajectoire industrielle qui a été celle de Disney. Je pense qu'il faut au contraire parler d'une capacité assez phénoménale de cette industrie à s'adapter à des donnes qui changent, qui sont celles de nos sociétés, qui sont celles de la concurrence aussi. Hervé Aubron a tout à fait remarquablement parlé tout à l'heure. Donc pour moi, non, je dirais plutôt continuité dans la longue durée, entre finalement le projet Disney au départ, qui était de s'adresser aux classes populaires et la middle class américaine, plutôt issue évidemment majoritairement à l'époque de l'immigration européenne, et donc Blanche-Neige et Sept Nains, c'est effectivement le début d'une longue série d'adaptations du folklore finalement européen, donc adaptation aujourd'hui à une société beaucoup plus polyculturelle, pluriculturelle, où effectivement, depuis un certain temps, Disney va chercher ses références ailleurs, en Chine, au Japon et pourquoi pas en Polynésie.
Oui, et en même temps, en diffusant un certain nombre de clichés. Parce que d'ailleurs, avec Vaiana, l'un des enjeux, c'était précisément d'échapper aux critiques récurrentes dont font l'objet les studios concernant le manque de diversité de ses héros, mais aussi peut-être une image, alors supposément ou réellement, sexiste de ses personnages féminins. Disney a beaucoup été critiqué, on le sait, parce qu'il véhiculait des clichés, des fausses images. Alors, il y en a des dizaines, des exemples. On peut penser à Aladdin, où les Arabes sont inévitablement des barbares et des voleurs. On peut penser à Pocahontas, par exemple, jolie indienne qui tombe forcément amoureuse du beau et gentil colon blanc. Est-ce que Disney est toujours autant cette machine à le relayer des clichés? Ou est-ce qu'il vous semble qu'il y a quand même des efforts de nuance qui sont faits?
Écoutez, oui, des efforts de nuance peut-être, mais d'une certaine manière, là, on va chipoter sur effectivement sur la nuance et sur la marge, c'est-à-dire la capacité encore une fois de Walt Disney de s'adapter, de faire face aux critiques, de les incorporer lorsqu'elles représentent effectivement des parts de marché. Donc oui, notamment la question de la entre guillemets revalorisation de l'image féminine est à l'œuvre chez Disney, mais encore une fois dans des marges qui me semblent encore une fois être très loin d'un véritable progressisme ou d'une véritable volonté, enfin d'un véritable marquage idéologique qui serait celui d'une volonté d'égalité des sexes, de travail sur la question des genres, ou encore une fois lorsque vous dites oui qu'on prend en charge d'autres cultures, mais on le prend en charge d'un point de vue qui reste celui de l'industrie états-unienne, évidemment. Donc les clichés sont
Mais on essaye de s'appuyer, on s'appuie sur une véritable expertise. Pour Vaiana, par exemple, on avait des spécialistes qui étaient là pour superviser l'ensemble de la création. On a fait appel à des Polynésiens, on a fait appel à des universitaires, des archéologues, des linguistes, des historiens. Il y a eu vraiment une attention très forte pour ne pas être taxé, disons, d'orientalisme. Quand même.
Oui, et à la fois, je crois que la nature est plus forte qu'autre chose. C'est-à-dire que le processus est le même depuis le départ chez Disney. C'est-à-dire que de la même façon, sur le travail des contes occidentaux, le travail aussi a été fait de façon extrêmement précise. Il y a une vraie grammaire à la fois picturale, à la fois de travail sur les contes. Mais il y a un esprit Disney, il y a une volonté, j'allais dire, de se conformer à ce... Et c'est pour ça que pour moi, je parle vraiment d'industrie, c'est-à-dire à se conformer à ce qui est une attente mainstream. Donc, elle laisse toujours cette attente mainstream, elle laisse toujours de côté, effectivement, des attentes qui seront évidemment plus pointues, qui voudront être plus précises par rapport au champ culturel que l'on met en place. Je crois qu'il est, encore une fois, la question de Disneyland est importante, mais il faut la remettre toujours dans le contexte de dire que pouvons-nous attendre d'une industrie dont le marché est mondial et qui, effectivement, se positionne toujours en conformité avec ce qu'il croit être les attentes d'un public. Mmh. Donc il ne faut pas non plus attendre ni un esprit de résistance, ni un esprit de modernité, ni un esprit d'avant-garde chez Disney, pas plus à mon sens que chez Pixar.
Oui, parce qu'à l'origine de cette attente mainstream, on a peut-être aussi une certaine vision, une certaine représentation de l'enfant. Écoutez ce que disait Walt Disney quelques temps avant sa mort.
Chez nous, dans nos studios, nous sommes sûrs d'une chose. Tout le monde a été un jour enfant. Nous grandissons et nous changeons, mais à l'intérieur, il reste toujours quelque chose de notre enfance. Un endroit où nous ne connaissons ni la sophistication, ni la distinction. Nous sommes tous simples et naïfs, sans préjugés, confiants. Je crois que si un film touche quelqu'un à cet endroit, il peut toucher tout le monde à ce même endroit. Donc, lorsque nous faisons un film, nous ne pensons pas aux adultes ou aux enfants, mais à ce point pur, au plus profond de nous-mêmes, que le monde a pu nous faire oublier, mais que le film va essayer de raviver.
Et oui, sous-entendu, on aurait tous ce point pur, ce serait tous le même, nous sommes tous simples et naïfs. Si un film touche quelqu'un à un endroit, il peut toucher tout le monde à ce même endroit. L'enfant de Walt Disney, Xavier Kawatopor, il est extrêmement normé, assez invariant en réalité.
Il est extrêmement normé, il correspond à l'idée à la fois du fondateur de Walt Disney, et cette idée n'a cessé d'être remise sur l'établi, mais toujours dans la même idée. Moi, je suis frappé, lorsque vous regardez de façon plus précise les films de Disney, d'une certaine période, les personnages enfantins agissent exactement de la même façon. C'est-à-dire que si on regarde l'acting, c'est-à-dire finalement la performance de composition du personnage animé d'Arthur et de Mowgli, c'est le même personnage d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il répond, ce personnage a été créé pour répondre à ce que Walt Disney veut projeter à ce moment-là de la personnalité moyenne attendue d'un jeune garçon de la société américaine de l'époque. Donc ce ne sont pas des individualités que fabrique que Walt Disney, mais ce sont encore une fois des normes.
Une fabrique de normes. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une certaine continuité évidemment dans les dessins animés de Disney. Et en même temps, les spécialistes dont vous faites partie considèrent qu'il y a plusieurs âges chez Disney, plusieurs âges d'or d'ailleurs. On a trois grands âges d'or, nous dit-on. Est-ce que vous pouvez peut-être très rapidement nous redire quelles sont ces différentes périodes ? Quand et comment est-ce qu'on bascule, disons, d'un âge d'or à un autre ? Et surtout, par quelle logique ? Est-ce que ce sont des modes de narration ? Est-ce que ce sont précisément des modes de représentation qui vont changer ? Xavier de Kawatopor.
Oui, alors parler d'âge d'or, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on se réfère à une période préexistante. C'est compliqué de parler de premier âge d'or, mais effectivement, il y a une époque très forte de Walt Disney qui se situe. On va rester dans le champ du long métrage parce que le travail qui a été celui de Disney avant le long métrage est extrêmement intéressant. C'est celui des six symphonies dans le domaine du court métrage où Disney met en place ce qui va être le style qui éclatera de façon extraordinaire dans Blanche-Neige. Donc premier, effectivement, très grande période de Disney, c'est Blanche-Neige, c'est Pinocchio, c'est Dumbo. Je crois que c'est à peu près la période qui met tout le monde d'accord. C'est-à-dire, oui, il y a un esprit Disney, mais il y a aussi un niveau d'exigence et une inventivité formelle extrêmement importante. C'est ce moment de l'histoire où Walt Disney fixe véritablement un standard international que d'ailleurs le monde entier va imiter.
Deuxième âge d'or, à partir des années 50.
Oui, à partir des années 50, autour des grands codisciples de Walt Disney, notamment Wolfgang Reitherman dont je parlais tout à l'heure, le Livre de la Jungle est le dernier film supervisé de son vivant par Disney, mais c'est du Wolfgang Reitherman et on voit très bien effectivement un style qui à la fois est tout à fait établi et innove aussi sans arrêt, notamment à travers des recherches stylistiques, notamment les 101 Dalmatiens, notamment La Belle au Bois Dormant, vont chercher du côté des décors, du côté de la civilisation des personnages, des références à la peinture occidentale qui régénère cet âge d'or. Et puis ensuite, il y a effectivement une période où Disney est clairement dans le déclin jusqu'à la fin des années 80, où il y a des tentatives qui sont tentés, enfin qui sont à l'œuvre à la marge des productions Disney dans le cadre de la Touchstone, qui notamment on pourra penser à Roger Rabbit, qui est une volonté d'aller chercher des marques ailleurs. Il y a aussi l'étrange Noël de Mr Jack qui là aussi démontre cette volonté de Disney de soutenir des expérimentations tout à fait à l'extérieur de ce qu'a été son esthétique. Et puis effectivement La Petite Sirène et les films qui suivent, qui sont un troisième âge d'or du dessin animé disneyen, avant effectivement ce dont parlait Hervé Brault tout à l'heure, c'est-à-dire cette fusion coalition d'une certaine manière avec Pixar qui relance par l'extérieur l'industrie disneyenne.
Mais je repose ma question initiale, Xavier Kawatopor. Est-ce que vous pensez que ces basculements correspondent à des ruptures technologiques, ou est-ce que vous y voyez plutôt, même si j'ai bien compris que vous parliez de continuité, on l'entend bien, mais il y a aussi, c'est toujours fait de rupture et de continuité des deux. Est-ce qu'on peut aussi y voir des cassures dans les systèmes de représentation ?
Alors, il y a des cassures technologiques, bien sûr, mais d'une certaine manière, Disney répond parfois de façon technique à des enjeux qui ne sont pas forcément des enjeux techniques. Je m'explique par là. Au moment où Pixar et DreamWorks d'ailleurs surgissent sur la scène internationale, Disney va avoir le sentiment que l'animation en 2D s'est terminée. C'est-à-dire que le public ne souhaite plus ça et souhaite effectivement attend des films en volume. Et donc, il va y avoir à un moment donné une fermeture fugace mais réelle du studio qui était quand même le studio historique de Disney, le studio de dessin animé, avant qu'effectivement Walt Disney se ravise. Donc on le voit bien, le déterminant, c'est les parts de marché de façon très claire. Alors moi je relativerai un petit peu ce que dit Hervé Aubron, c'est-à-dire que oui, il y a des évolutions à l'intérieur de l'industrie disneyenne et de l'industrie américaine de la même façon, mais je relativiserai en disant notamment ce qui relève de la représentation de l'enfance et le recours au monde, au domaine du conte, le recours au bestiaire sont des constantes qui effectivement changent, varient d'une époque à une autre. Mais je ne crois pas qu'il soit véritablement révolutionnaire, par exemple, de faire appel comme le fait Toy Story aux jouets. Alors c'est révolutionnaire, oui, dans le cadre de l'industrie mainstream américaine, parce que ça faisait longtemps que Disney n'y avait pas pensé. Mais ailleurs, et depuis les origines, le fait de mettre en scène des jouets pour parler de l'enfance et pour parler de la puissance imaginative de l'enfance fait partie de l'ADN du film d'animation.
Oui, donc c'est pas une rupture aussi profonde qu'on pourrait le penser. En tout cas, c'est pas votre.
C'est une rupture dans le mainstream, mais c'est encore une fois la capacité de Disney à regarder ailleurs et à regarder ce qui se fait au Japon, ce qui se fait en Europe. Et ça a été sans arrêt des allers-retours.
On va aller voir justement, parce que c'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et en l'occurrence du côté du Japon. On est dans cette série consacrée à l'enfance de Pixar au studio Ghibli, une enfance animée. Xavier Kawatopor est notre invité. Il est l'auteur notamment de cet ouvrage, Le cinéma d'animation en 100 films. On va aller du côté du Japon.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et quand on pense au dessin animé japonais, on pense forcément à Hayao Miyazaki, cofondateur du studio Ghibli, créé en 1985 avec Isao Takahata. Parmi ses réalisations, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant ou encore son dernier, Le Vent se lève. Extrait.
Ce vent est tellement agréable.
Mademoiselle, votre chapeau va s'envoler.
Ne vous inquiétez pas.
Tout va bien ?
Oui, merci.
Vous êtes habile. Merci.
Le vent se lève.
Il faut tenter de vivre.
Voilà, Le Vent se lève, 2013, le dernier film d'animation pour lequel il a écrit le scénario et qui marque la fin de la carrière du maître de l'animation japonaise. Le Vent se lève qui se présente comme un film éminemment personnel puisqu'il plonge dans la mémoire de l'enfance de Miyazaki, Xavier Kawatopor. L'enfance, évidemment, est omniprésente dans l'œuvre de Miyazaki et d'une certaine manière, elle va conduire même la façon dont il pense les histoires. On peut penser par exemple au voyage de Chihiro où il nous dit qu'il s'est inspiré de la fille d'un de ses amis et qu'à chaque dessin, il se demandait ce que ferait dans la réalité une enfant de 10 ans. C'est vrai que dans l'œuvre de Miyazaki, on a parfois cette sensation d'être dans un rêve, mais le réalisateur japonais a en réalité un attachement très profond à la réalité, et notamment à la réalité des enfants. Xavier Kawatopor.
Oui, je crois que c'est ce qui distingue très clairement l'œuvre d'un auteur comme Miyazaki de l'industrie disneyienne dont on parlait tout à l'heure. Là, nous avons affaire à une vision d'auteur, c'est-à-dire à une vision qui se réfère à la fois à une expérience personnelle vraie de l'enfance, certainement pas aussi réductrice et formatée que celle que prenait Walt Disney, mais qui effectivement fait appel à la fois aux souvenirs personnels qui sont les siens, à sa réflexion propre sur l'enfance, à la question plus générale de la place de l'enfance au Japon, qui est tout à fait particulière, et qui aussi a une certaine idée, une certaine éthique du rôle que peut jouer le film d'animation, qui est devenu... suite à Disney, le médium privilégié au cinéma pour s'adresser aux enfants. Donc, quel est le message, quelle est la façon dont le film d'animation peut s'adresser aux enfants dans une vision qui n'est certainement pas ni réductrice, ni un échappatoire vers le merveilleux, mais au contraire, comme vous voulez de le dire de façon très, très judicieuse, de prise en compte du réel.
Oui, et puis en fait, le monde est souvent vu à travers le regard des enfants. Et c'est le cas notamment dans son film « Mon voisin Totoro », que vous évoquez d'ailleurs dans votre livre. Hein.
Voilà, alors il est vu à travers le regard des enfants, ça c'est très clair. Et il est vu, donc c'est vraiment un cinéma de l'éveil. C'est-à-dire ce que nous montre Miyazaki, c'est l'éveil de l'enfance au monde à travers cette lecture merveilleuse du monde. Lorsqu'on est enfant, on a ce regard émerveillé. Mais on n'est pas... pour autant, j'ai une forme de candeur ou de naïveté, c'est-à-dire Miyazaki se sert de ce regard et fait l'apologie de ce regard pour nous révéler à nous-mêmes spectateurs, que nous soyons enfants ou adultes, que le monde est divers, que le monde est beau et qu'il est important de le prendre en charge comme tel et de préserver la merveille de ce monde qui nous entoure, de cette réalité qui nous entoure.
Il est beau, il est divers, mais il est brutal aussi. Alors on peut regarder aussi du côté de Takahata, qui est le cofondateur des studios de Ghibli. Sa notoriété internationale, elle est venue notamment avec le Tombeau des Lucioles en 1988, qui est une nouvelle semi-autobiographie qui se déroule durant l'été 1945. Il voit deux enfants, Seita, qui est un adolescent d'une quinzaine d'années, et puis sa jeune sœur Setsuko, qui elle a 4 ans. Ils font face à la réalité de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la déroute nippone. C'est une réalité extrêmement violente que celle à laquelle ces personnages sont confrontés. On est très loin de l'enfance enchanteresse qu'on va pouvoir croiser du côté de Disney quand même.
On est aux antipodes, c'est-à-dire qu'avec le Tombeau des Lucioles, Takahata montre que le dessin animé peut se saisir de façon frontale de la réalité, y compris de la réalité la plus dure, la plus tragique, la plus insupportable, et qui peut la montrer sous un jour différent de l'image réelle, avec d'autres outils, qui n'édulcorent pas cette réalité, qui la montre au contraire de façon extrêmement frontale. Alors, le film a été un film choc, parce que, notamment pour un public occidental qui est habitué au registre du merveilleux du conte, notamment dont Disney était le propagandiste, tout d'un coup se retrouver devant cette réalité qui est celui des bombardements aériens et de la mort des enfants, événement historique mais aussi aujourd'hui hélas tragiquement d'actualité, ça a été un véritable coup de poing pour les spectateurs occidentaux. Mais finalement, Takahata nous montre aussi, réouvre la palette du dessin animé et réconcilie, je crois, les spectateurs avec ce qui était le champ des possibles de l'animation avant le monopole disneyen, qui était effectivement de pouvoir s'adresser à tous, de pouvoir prendre en compte différents registres, que ce soit celui du merveilleux, du conte, du récit, de l'aventure, mais aussi de la réalité, mais aussi du questionnement philosophique, etc. Donc tout d'un coup, le champ s'élargit de façon très, très, très notoire sur les écrans et dans le registre du long métrage d'animation.
Il s'élargit le champ et vous avez raison, mais il y a quand même une question qui se pose. Est-ce que le cinéma de Miyazaki ou de Takahata s'adresse aussi aux enfants? Clairement, il s'adresse bien sûr aussi aux adultes et c'est en cela que vous parlez d'élargissement, mais est-ce qu'il s'adresse aussi aux enfants?
Alors c'est une bonne question. Miyazaki s'adresse de façon très volontariste et très très claire au jeune public depuis le départ, peut-être avec un petit écart sur Le Vent se lève où son adresse n'est plus si certaine dans son dernier film dont vous parliez tout à l'heure. En ce qui concerne Takahata, la question se pose différemment, c'est-à-dire que Takahata a un projet de cinéma qui essaie de s'adresser à tous, en considérant que c'est vraiment un positionnement éthique, que les films qu'il fait doivent être visibles pour tous. Il s'est posé la question en faisant Le Tombeau des Lucioles, c'est un film qui n'adresse pas a priori aux enfants, mais à ses compatriotes japonais. Il s'est posé la question de savoir si ce film pouvait être vu par des enfants ou pas, et il le dit assez clairement. Sa réponse, finalement, est oui, évidemment avec des nuances d'âge, en disant que ce côté insupportable que peut être représenté le film dans certaines scènes, et finalement sans doute beaucoup plus insupportable pour des adultes, parce qu'il pose la question de la responsabilité des adultes vis-à-vis de la protection des enfants. Et moi j'ai fait aussi cette expérience de présenter Le Tombeau des Lucioles à des enfants de 10 ans. Et effectivement, c'est un film qui est dur, qui questionne, qui interpelle, mais les enfants n'en sortent pas aussi traumatisés que l'on pourrait le croire. Et je crois, pour revenir sur les propos de Disney tout à l'heure, on a très longtemps vécu avec une vision trop simpliste des enfants qui sont évidemment capables de saisir la complexité, de saisir la dureté du monde. Les contes étaient faits pour ça. Lorsque vous lisez Barbe Bleue, lorsque vous lisez le Petit Poucet, on n'édulcore pas l'horreur, on n'édulcore pas la peur, on n'édulcore pas la monstruosité, on prévient contre elle. Mmh. Et les enfants sont capable de comprendre cela. Et je crois que c'est le grand mérite de ces films-là, c'est de dans un appareillage qui permet aussi de un dialogue avec les adultes et d'objectiver les choses, mais c'est de prévenir, d'alerter et de tout simplement d'éveiller les enfants, d'éduquer les enfants sur ce qu'est le monde qui les attend.
Je voudrais poursuivre encore un peu avec vous sur l'industrie nippone du dessin animé, parce que c'est vrai que c'est plus rare d'aborder ce versant-là. On parle le plus souvent de l'industrie américaine. J'en profite parce que vous êtes un grand connaisseur de cette industrie. Je reviens sur Miyazaki et les enfants. Chez Miyazaki, les enfants sont d'ailleurs plutôt souvent des petites filles. Et qui d'ailleurs ont souvent des pouvoirs magiques, des pouvoirs un peu surnaturels. Je pense à la princesse Mononoke, je pense à la Chita dans le château dans le ciel. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une idée derrière cela? Est-ce que d'une certaine manière, on peut y voir, est-ce qu'il faut y voir une forme de féminisme chez Miyazaki?
Alors, féminisme serait un bien grand mot, mais de façon...
Ce qui n'est pas très répandu dans un pays encore très conservateur et où la condition des femmes avance très lentement.
Voilà, mais c'est vrai qu'il y a, de façon déclarée par Miyazaki et par Takahata d'ailleurs, la volonté d'un rééquilibrage. C'est-à-dire que Takahata et Miyazaki sont des esprits très progressistes, politiquement, socialement, et pour eux, il était important, effectivement, sans féminisme déplacé, mais d'agir en forme de rattrapage, en mettant sur le devant de la scène les femmes. Et puis, après, Takahata s'amuse un petit peu de cette constante qui est beaucoup plus celle de Miyazaki d'ailleurs que la sienne, en se disant bon, Miyazaki a aussi, contrairement à moi, n'a pas eu de sœur, donc il ne connaît pas la réalité des jeunes filles et des petites filles, et il a une vision qui reste un petit peu idéalisée de ces personnages féminins. Bon, c'est vrai aussi des personnages masculins. Miyazaki se sert de aussi de cette dimension idéale de l'enfance pour mettre en œuvre ces histoires. Mais voilà, clairement, il y a une prise de position de leur part et un volontarisme très clair.
Après la sortie du Vent se lève, Miyazaki avait annoncé que ce serait son dernier film. Qui pour le remplacer? Qui sont ses héritiers? On parle parfois de Makoto Shinkai, qui est le réalisateur de La Tour au-delà des nuages, ou de plus récemment Your Name. Est-ce que vous le voyez comme l'un des héritiers, l'un des successeurs de Miyazaki?
Non.
Je pense que non, puisqu'il n'est pas dans le, justement dans le livre Le cinéma d'animation sans film, évidemment vérifié. Il y en a d'autres. Bon, il y a par exemple celui qui a fait Le Mon Chef, Koji Yamamura. Oui, ça serait plutôt Koji lui, Yamamura, alors
Non plus. Mais bien que j'ai beaucoup plus d'intérêt, on va dire, pour le travail de Koji Yamamura. Bon, sans film, c'est évidemment réducteur. Il y a plein d'autres réalisateurs films qui auraient mérité d'être là. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément les 100 meilleurs films, ce sont simplement des jalons pour essayer de saisir une histoire extrêmement complexe. Mais non, je crois que c'est toujours un petit peu réducteur, excusez-moi, de vouloir choisir des héritiers à des grands maîtres qui sont par essence irremplaçables. Alors c'est vrai que, mais on le désire en tant que spectateur. On voit qu'effectivement Miyazaki, qui nous a enchantés pendant des décennies, est en train de mettre terme à sa carrière. C'est la même chose pour Takahata et on a envie d'une suite. Non, je crois que souvent ce ne sont pas les héritiers les plus directs qui sont finalement les plus prometteurs. Alors il y a une volonté de Studio Ghibli, y compris d'ailleurs dans le fils même de Miyazaki, de passer un relais qui n'a pas tout à fait fonctionné. On parle effectivement régulièrement, lorsqu'un auteur japonais surgit ou occupe le devant de la scène, on envoie un héritier de façon plus ou moins abusive de Miyazaki ou de Takahata. Non, je crois que plus largement, ce à quoi il faut ouvrir les yeux, c'est le fait qu'il y a une jeune scène, enfin une plus jeune scène de l'animation japonaise qui est diverse, occupée par des gens comme Katabuchi Sunao, dont on va voir prochainement un prochain film, et d'autres réalisateurs qui expérimentent dans des voies qui ne sont pas dans l'héritage, on va dire, direct de Miyazaki, c'est-à-dire pas dans la reproduction d'un style au risque du maniérisme, qui me semble parfois celui de Makoto Shinkai, mais au contraire qui vont chercher ailleurs une expérimentation, une liberté qui invente tout en connaissant parfaitement le style de Miyazaki et de Takahata. C'est ce qu'ont fait Miyazaki et Takahata. Ils se sont notamment inspirés de Grimaud de façon très forte, aussi de Disney, mais de façon moins évidente, et aussi des grands réalisateurs russes. Et la leçon finalement qui est la leur, c'est de dire comment, à partir d'inspiration d'œuvres d'une extrême exigence, ils ont inventé une voie propre qui était une voie d'auteur et une voie d'auteur japonais, c'est-à-dire parlant de l'enfance, parlant de la société, de là où ils étaient et à partir d'éléments qui sont les siens.
Oui, vous avez raison. Toujours le problème. D'évoquer Paul Grimaud, parce qu'effectivement, Miyazaki, je crois, a été très influencé par Paul Grimaud et notamment évidemment par Le Roi et l'Oiseau. Et je crois que c'est peut-être aussi l'une des choses qui l'a convaincu qu'il était possible justement de faire des films d'animation pour adultes. On en parlait tout à l'heure. J'aurais voulu qu'on parle un peu de la France, mais malheureusement, le temps est passé beaucoup trop vite. On aurait pu évoquer beaucoup de choses. Kirikou, qui d'ailleurs est dans votre ouvrage. Mais on va laisser la place. On va quand même parler de l'Europe. On va laisser la place à un film qui a aussi beaucoup de succès, qui a probablement un bel avenir devant lui. C'est Une vie de courgette. Une vie de courgette qui est une adaptation du roman autobiographique d'Une courgette de Gilles Paris, qui est l'histoire d'un garçon accueilli dans un orphelinat. Icare est un enfant que tout le monde appelle Courgette. Il est placé dans un foyer pour enfants où il apprend à se faire des amis. Ahmed, Jujube, Alice, Béatrice, ses relations avec Simon, le rebelle du groupe, sont un tout petit peu plus difficiles. Petit extrait.
Et il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle veut que tu vives chez elle si elle t'aime pas?
C'est pour l'argent. Si j'ai vécu chez elle, elle gagnerait un max de fric. Tu sais, si j'y retourne, je me tue. Ou alors, j'attue.
Je te laisserai pas partir.
Camille doit passer le week-end avec moi. Où habite ce monsieur?
Soyez raisonnable, madame. Respectez la volonté de Camille.
Mais enfin, les enfants n'ont pas de volonté. Je vais la chercher.
Voilà, extrait de Une vie de courgette, un film qui a déjà reçu plusieurs récompenses dans les festivals. On va retrouver donc son réalisateur, Claude Barras, qui est suisse. Il est au micro de Tiffaine de Rocchini.
L'enfance, c'est un lieu et un temps où on apprend la vie et où les sentiments sont peut-être démultipliés.
Et quelle était votre intention alors en créant Ma vie de courgette? C'était de permettre aux enfants une forme de catharsis face à la peur primitive de l'abandon?
Alors oui, c'est en tout cas moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre et le travail qu'on a fait après avec Céline pour l'ouvrir aux enfants, puisque le livre est un livre plutôt pour ados-adultes, qu'on trouvait très beau et très intéressant, c'est que l'enfance des orphelins qui n'ont plus de parents puissent entre eux recréer une famille et puis que l'enfance soit un lieu de fondation et puis de dépassement de soi face à la peur ou face à des moments où on a envie des fois de tomber dans la colère. C'est surtout par rapport à ces sentiments-là qu'on a travaillé, ouais.
Et vous racontez vous-même dans un entretien dans le magazine Bande à Part que vous avez eu une enfance heureuse, passée dans les montagnes en Suisse. Alors pourquoi justement avoir choisi de peindre dans vos courts-métrages, comme dans Ma vie de courgette, les difficultés de l'enfance ?
Alors j'ai eu une enfance heureuse, mais j'ai eu une enfance un peu proche de celle de Heidi, même si c'est quelques centaines d'années plus tard. C'est-à-dire que j'ai vécu à la campagne, j'avais une sœur, j'avais un rapport à la nature aussi assez fort, assez particulier. Et pour moi, finalement, cette enfance-là, c'est un peu un paradis perdu. Et c'est peut-être pour ça que j'ai une forme de nostalgie de l'enfance et que j'en parle dans cette histoire qui est proche de Rémi sans famille. Voilà, c'est un film, par exemple, qui m'avait beaucoup touché enfant. Ça avait permis de me projeter, moi, dans un enfant malheureux et de comprendre un peu plus les autres. Et c'est ce que j'ai essayé de refaire avec Ma vie de courgette.
Et quel retour vous avez eu de la réception de ce film par des enfants et même des tout petits enfants, justement ?
Alors, c'est particulier puisque ça parle d'un foyer avec des orphelins. Donc, on a eu quelques projections avec des enfants de foyer. Et là, c'était les projections les plus touchantes et les plus confrontantes parce que j'avais envie que ça leur plaise et que ça puisse les aider à grandir ou à réfléchir. Et à la fin de la séance, la tension était très palpable. Souvent, on m'a demandé pourquoi je parlais d'eux. Donc j'ai essayé de m'expliquer, comme tout à l'heure je vous ai expliqué. Et puis après, pour ces enfants-là, ce qui était très important, c'est de chaque enfant qui puisse se raconter une histoire positive ou constructive, pas seulement avec Roger et Camille, mais aussi me poser beaucoup de questions sur ce que les autres enfants allaient devenir. Ce que je trouve très beau avec cette fin qu'a écrit Céline Sciamma, c'est qu'on peut se raconter toutes ces histoires, puisque c'est une fin assez ouverte, où on laisse les personnages continuer leur chemin.
Et quels sont les créateurs de films animés qui vous ont inspiré pour ce premier long-métrage, Claude Barrass ?
Yeri Trinka, qui faisait des films d'animation avec des marionnettes en bois dans les années 60 en Tchéquie. Et j'ai pu voir une rétrospective de ces marionnettes à Prague il y a 5 ans et ça m'avait beaucoup inspiré. Sinon, dans le cinéma réel, je m'intéresse aussi beaucoup au film de Ken Loach et je me suis pas mal inspiré de son cinéma aussi dans la mise en scène de Ma vie de courgette.
Dans le film, on voit à un moment Camille qui est en train de lire du Kafka. Votre idée, c'est de montrer qu'on peut emmener les enfants vers plus de complexité. C'est une métaphore du film en quelque sorte ?
On pourrait dire ça, mais alors j'ai travaillé avec une équipe rodée puisqu'on travaille depuis 10 ans ensemble sur des courts-métrages. J'ai un rapport, disons, de création artistique avec eux qui est assez libre. Donc, c'est pas moi qui ai décidé de mettre du Kafka. C'est une proposition que j'ai trouvée très belle. Et effectivement, oui, ça peut faire un peu une métaphore du film. Puisqu'avec Céline Sciamma, quand on a finalisé le scénario, on était vraiment très d'accord tous les deux sur l'idée que les enfants étaient un public averti, intelligent, ouvert, et qu'il fallait s'adresser à eux sans trop leur cacher des choses. Il fallait aller frontalement avec le sujet. Après, par rapport au livre, on a fait attention de pas trop raconter en détail le passé douloureux des enfants. C'était pas le but. Mais par contre, d'aborder voilà des sujets comme la maltraitance, et par contre, d'offrir quand même, je pense que la responsabilité, c'est d'offrir une histoire qui se termine bien. Je ne me verrais pas raconter une histoire qui se termine mal, sans espoir aux enfants.
Et qu'est-ce que permet le dessin animé que ne permettrait pas un film, selon vous, Claude Barrass ?
Eh ben, je pense qu'il y a un rapport à l'émotion qui est plus facile à doser, puisque on n'est pas directement avec des personnages réels, avec des acteurs. Et je pense que la simplicité d'une marionnette attire différemment l'émotion et peut-être plus facilement. Et je pense qu'avec des acteurs, le même film serait peut-être plus kitsch et on aurait peut-être plus de moments où on n'adhère pas à l'histoire parce qu'elle nous paraîtrait peut-être trop sirupeuse. Nous, en Europe, je pense qu'on a beaucoup de liberté aussi dans nos sujets et dans nos formes, mais qu'on est, comme aux États-Unis, cantonné au film pour enfants. Ou alors, quand on veut le dépasser, le film pour enfants, eh ben, il faut faire un film à deux ou trois personnes avec un tout petit budget parce que les financements ne suivent pas. Il n'y a pas encore cette ouverture du film pour adultes. Et après, voilà, je pense que les États-Unis, on est dans une autre forme de création puisqu'on est plutôt dans l'industrie et on s'adresse au plus grand nombre avec des budgets faramineux, ce qui fait que les récits sont quand même très normés, plutôt axés sur le divertissement, mais avec souvent des sous-textes quand même comme Vice-versa ou Finding Dory, des sous-textes écologiques ou qui abordent des sujets psychologiques même intéressants.
Quels sont vos prochains projets et dans quelle direction vous souhaitez emmener vos prochaines créations? Vous prévoyez un nouveau long métrage, c'est ça?
Oui, alors on a un petit studio de trois plateaux à Lausanne où on continue à faire du stop motion. Et là, on va tourner un court métrage que je produis qui s'appelle La femme canon. C'est l'histoire d'un couple qui se sépare et se retrouve. C'est des saltimbanques. Et c'est réalisé par Albertine et David Toutevoix, le chef opérateur de Courgette. Donc voilà, nous on continue notre chemin de court-métrage et avec toujours un peu la même équipe. Et moi en parallèle, j'essaie d'écrire un nouveau long-métrage qui est plutôt une histoire, un mélodrame sur la déforestation et l'écologie, je pense. À travers l'histoire d'un orang-outan et d'un enfant qui vit dans la forêt.
Claude Barras, le réalisateur d'Une vie de courgette qui vient de sortir, qui a déjà eu un certain nombre de prix, le Cristal du long métrage, le prix du public au Festival international du film d'animation d'Annecy. On lui souhaite évidemment une belle carrière, peut-être celle qu'avait fait Kirikou à l'époque, hein, plus d'un million d'entrées. Et Claude Barras qui était donc au micro de Tiffaine de Roquigny. Merci beaucoup à nos invités et notamment à Xavier Kawatopor qui est avec nous en duplex depuis La Rochelle. Je rappellerai qu'il est historien du film d'animation et auteur de cet excellent ouvrage que je vous conseille. C'est bientôt Noël, alors allez-y, le cinéma d'animation en 100 films aux éditions Capricci. Et merci également au technicien qui était à ses côtés, Frédéric Gastine, et qui a permis de faire le duplex juste à nous. Dans un instant sur France Culture, ce sera La Grande Table, mais avant, on retrouve le monde des idées, on quitte le monde du dessin animé, même s'il y a beaucoup d'idées aussi dans le dessin animé, on vient de le voir, et on retrouve notre ami Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous nous parlez cette semaine de multiculturalisme, vous nous avez cité hier l'essayiste Kenan Malik, selon lequel le multiculturalisme aurait échoué aussi bien dans son pays, la Grande-Bretagne, que dans tous ceux qui en Europe l'ont adopté, mais la France républicaine se réclame précisément d'un autre modèle.
Et oui Florian, le modèle français est en théorie aux antipodes. Il ne prend en considération que les individus, il veut en faire des citoyens au prix d'une forme d'arrachement à leur communauté d'appartenance traditionnelle. Il se méfie des communautés organiques dans lesquelles il soupçonne la présence de formes de sociabilité d'anciens régimes, les hiérarchies féodales, le système clanique, etc. Ce modèle a eu longtemps tendance à écarter toutes les institutions qui s'interposaient entre l'État et le citoyen. Alors face aux vagues migratoires, qui ont une longue histoire dans notre pays, il s'est prétendu ce modèle assimilationniste. Et c'est d'ailleurs ainsi que le caractérise Kenan Malik. Mais observe aussi celui-ci, dans les années 80, les autorités publiques ont rompu avec cet idéal en prônant soudain un droit à la différence qui ne faisait pas partie des revendications des enfants d'immigrés à l'époque. Ce contre quoi il luttait, c'était les discriminations, qu'on se souvienne de la fameuse marche des beurs de 1983. Ces mêmes autorités, soutient Malik, alors qu'elles récusent officiellement le multiculturalisme, l'ont pratiqué depuis dans les faits. La preuve, c'est qu'elles abordent les problèmes qui se posent aux descendants des immigrés sous l'angle devenu obsessionnel de leur religion supposée, l'islam. En France, dit-il encore, on tend à considérer les Français d'origine arabe comme des musulmans français, alors même que dans leur majorité, les nouvelles générations sont éloignées de la pratique religieuse. Or, cette focalisation sur la religion a déclenché chez les autochtones un sentiment de peur, la peur du déclin se mêlant à une angoisse d'être submergé par une religion en phase d'expansion. Et pour conjurer ces angoisses, les dirigeants politiques français réagissent à présent en réaffirmant une identité française défensive. Ainsi, en France aussi, les politiques de l'identité tendent-elles à remplacer des politiques de classe.
Mais alors, que préconise Kenan Malik ? Comment naviguer entre les excès du multiculturalisme et ceux de l'assimilationnisme, qui nie la réalité des différences de culture ?
Primo, cesser de tout mélanger. La diversité, en tant qu'expérience vécue, est nouvelle pour beaucoup de sociétés européennes, et le multiculturalisme comme politique d'institutionnalisation de cette diversité. Segundo, ne pas faire de l'antiracisme à la française qui prétend ne pas voir les différences ethniques, il est, comme on dit, colorblind, un prétexte pour tolérer les discriminations de fait. Et c'est toute la question des statistiques ethniques qui est posée là. À titre d'exemple, le ministère du Travail vient de rendre public cette semaine les résultats d'une campagne de testing faite auprès de quelques-unes des plus grandes entreprises recrutant en France. Des lettres de motivation comportant de faux CV absolument identiques leur ont été adressées. La seule petite différence, c'était les noms de leurs auteurs. Les uns étaient, comme dit le ministère, d'origine hexagonale, les autres d'origine maghrébine. Résultat, 27% des candidatures ont été contactées de manière parfaitement identique, mais dans 20% des cas, le recruteur a favorisé la candidature hexagonale aux dépens de la maghrébine. Mais dans 9% des cas, la candidature maghrébine a été favorisée aux dépens de l'hexagonale, ce qui démontre que la tentation de la discrimination positive existe aussi chez nous. Il ne suffit pas de dénoncer le racisme, il faut aussi traiter tous les citoyens sur un pied d'égalité. Tertio, dit Malik, toujours lui, il ne faut pas confondre les gens et les valeurs. J'aime bien cette expression, car les assimilationnistes ont tendance à considérer que des valeurs communes ne peuvent être partagées qu'au sein d'une communauté ethniquement homogène, et de leur côté, les multiculturalistes, que ces valeurs communes ne peuvent tout simplement plus exister, tant la société est devenue diverse. Il faut donc renouer avec les valeurs universelles, sans faire pour autant de nos lumières européennes une forme d'intimidation, et encore moins une arme de la guerre des civilisations. Malik n'est pas le seul à constater que l'échec des modèles multiculturalistes est en train de provoquer un retour du pendule dans le sens de l'assimilation. C'est ce qu'écrit aussi l'Australien Peter Singer, qui s'amuse que les Français aient interdit le port du burkini sur les plages. Il s'agit d'une invention d'une styliste musulmane de Sydney, relève-t-il. Le fait que les hommes ne soient pas astreints, eux, à cacher leurs bras et leurs jambes manifesterait, selon les Français, une forme de discrimination envers les femmes. Mais comment les Français, dit-il, justifient-ils que les femmes soient incitées à cacher leurs seins sur les plages et non pas les hommes ? Et Singer, de poser une question intéressante pour notre débat, un pays doit-il accepter des pratiques culturelles ou religieuses qui violent les normes et les valeurs partagées par la grande majorité de ses habitants ? Et sa réponse, c'est que le droit à exercer un culte ou à observer des pratiques culturelles héritées ne saurait être en aucun cas absolu. Ainsi, quelles que soient les croyances des parents, les mutilations génitales ou le refus de l'école et des savoirs ne sauraient être tolérés. Et je livre, Florian, à votre réflexion, cette citation de Peter Singer. Si nous voulons que nos sociétés soient un peu plus que des collections de groupes distincts vivant à l'intérieur de frontières reconnues, nous pouvons raisonnablement vouloir un certain degré d'intégration afin de permettre aux gens de se mélanger et de travailler ensemble. Eh bien, ça me paraît le moins qu'on puisse demander.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette nouvelle série consacrée au multiculturalisme que vous poursuivrez demain. On peut retrouver bien sûr toutes vos chroniques sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, des chroniques qu'on peut réécouter et podcaster.
Pas toujours hélas.
Bah ouais, il y a parfois quelques problèmes, mais normalement ça fonctionne. Dans un très court instant sur France Culture, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.